VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Élections en République démocratique du Congo, les scrutins prévus le 23 décembre dans le pays risquent d'aggraver les crises et les conflits qui secouent le géant de l'Afrique centrale. C'est ce qu'affirme un rapport d'universitaires américains publié ce mardi. Le GEC, le groupe des experts du Congo de l'Université de New York, estime que si les scrutins se tiennent dans ces conditions, ils risquent de faire tomber le pays dans des années de contestation, de saper davantage la légitimité des élections et d'aggraver les conflits dans l'Est et au Kasaï. Le 23 décembre, il pourrait y avoir plus de 7 millions de voix potentiellement frauduleuses, s'inquiètent les experts du GEC qui recommandent au gouvernement congolais d'autoriser toutes les missions d'observation électorale. RDC toujours, Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du Front commun pour le Congo, la coalition représentant le pouvoir, a tenu hier sa première réunion publique à Lubumbashi, chef-lieu du Katanga minier, que se disputent le pouvoir et l'opposition à l'approche des élections du 23 décembre. Le point avec Irénée Herman Umbo.
Je suis un enfant du Katanga, le Katanga m'a tout donné, a lancé Emmanuel Ramazani Shadary, natif de la province du Maniema, mais qui a fait une partie de ses études à Lubumbashi. Nous sommes rassurés du soutien de l'électorat du Haut-Katanga, se félicite le candidat du Front commun sur son compte Twitter à l'issue de son meeting dans un stade. L'ex-province du Katanga, grande comme l'Espagne, a été redécoupée en 4 provinces en 2015. Ses sols regorgent de richesses minières comme le cuivre et le cobalt. Lubumbashi est aussi l'ancien fief de l'opposant en exil, Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga, qui soutient la candidature d'un autre opposant, Martin Fayulu. Samedi, les proches de M. Katumbi ont pu manifester sans heurts à Lubumbashi au nom de la coalition de Lamuka qui soutient Martin Fayulu. L'autre ténor de l'opposition, Félix Tshisekedi, est attendu ce mardi à Kinshasa. Il a obtenu, après une réunion à Nairobi, le soutien de Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale.
Par ailleurs, les violences continuent en RDC. 6 civils et un rebelle ont été tués lors d'une attaque attribuée au groupe armé ADF dans la nuit de lundi à mardi dans la région de Beni, province du Nord Kivu, dans l'est du pays. C'est ce qu'affirment des sources civiles et militaires. L'attaque a visé Oicha, à 30 km au nord de Beni, cible régulière des raids attribués aux ADF, les forces démocratiques alliées, historiquement des rebelles musulmans ougandais. D'après l'AFP, plusieurs milliers de personnes ont marché ce matin à Beni pour exprimer leur colère contre l'insécurité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Cap sur l'Afrique de l'Ouest, au Togo, la principale coalition de l'opposition ne présentera pas de candidat aux élections législatives du 20 décembre. Les opposants appellent à de nouvelles manifestations pour dénoncer des irrégularités dans le processus électoral. Morgan Guiriec nous en dit plus.
Par tout moyen, nous ferons en sorte que ces législatives n'aient pas lieu. Nous ne voulons plus jamais d'élections frauduleuses au Togo, a déclaré Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de la coalition de l'opposition. Raison de la colère, la Cour constitutionnelle n'a validé aucun des 14 partis membres de la coalition qui est à l'origine des manifestations qui secouent le pays depuis plus d'un an. Nous avons déjà saisi la commission de la CDAO, a ajouté la coordinatrice de la coalition de l'opposition. Cette coalition appelle donc à de nouvelles journées de manifestation, les 29 et 1er décembre. L'opposition exige la recomposition du bureau de la commission électorale, ainsi que la reprise de toutes les activités préparatoires aux élections. La campagne électorale doit démarrer le 4 décembre.
Burkina Faso, un moment clé hier dans le procès du coup d'État de septembre 2015 dans le pays. La comparution du général Gilbert Diendéré au tribunal. Le bras droit de Blaise Compaoré est considéré comme le principal instigateur de ce putsch qui visait à renverser le régime de la transition. D'entrée de jeu, le général Diendéré a plaidé non coupable. De Ouagadougou, le compte-rendu du correspondant de VOA Afrique, Lamine Traoré.
Je n'ai ni commandité, ni planifié, ni organisé, ni exécuté ce que d'aucuns appellent aujourd'hui coup de force, a déclaré dès l'ouverture du procès ce lundi matin le général Gilbert Diendéré. L'ancien chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré pendant plus de deux décennies ne reconnaît pas les faits d'attentats à la sûreté de l'État, de meurtres, de coups et blessures volontaires et bien d'autres chefs d'inculpation. Et pour sa défense, c'est clair, le général Diendéré n'est pas l'auteur du putsch. Maître Mathieu Sommé, l'un des avocats de Diendéré.
Nulle part dans le dossier d'instruction, il est ressorti clairement qu'il a commandité les événements du 16 septembre. Le juge d'instruction a posé toutes les questions, toutes les personnes qui n'ont pas pu dire qui a commandité. Seulement, il y a un seul qui, le Ménion, qui a fait varier un peu sa déclaration. Donc voilà un point qui sera en discussion lors de la confrontation, certainement.
Je me suis vu obligé de me porter au devant des choses, bien que n'ayant pas moi-même été associé à la préparation. S'est défendu à la barre le général avec assurance et habillé en tenue militaire.
J'avoue que nous sommes un peu déçus.
Marcel Tankwano, leader de la société civile, demande au général Diendéré d'assumer son coup d'état.
Il est pratiquement dans un tohu-bohu parce qu'il avait assumé le coup d'état qu'il a orchestré et qu'il a échoué. Il avait dit qu'il regrettait. Il y a eu perte en vie humaine. Il y a eu des blessés graves. Il regrettait. Il reconnaissait être l'instigateur et qu'il l'assumait. Mais on a l'impression qu'il plaide non coupable. Il rentre dans un dilatoire que personne ne comprend.
C'est pratiquement le même sentiment partagé par les avocats des partis civils, Maître Prosper Farama.
Il est aussi regrettable que le général persiste dans cette lancée de dire oui, c'est d'autres personnes qui m'ont poussé en fait à assumer un acte aussi grave qu'un coup d'État. Je pense, avec tout le respect que je dois au général, qu'un général, ça n'assume pas simplement un acte sans en savoir les conséquences. Il savait bien ce que c'était qu'un coup d'État et que cela voulait dire qu'à assumer un coup d'État, bon, il reste, moi je pense, à aller jusqu'au bout de la logique et à reconnaître avec qui ils ont commandité et exécuté ce coup d'État. Sinon, nous serions en face d'un coup d'État de fantôme.
Le général Diendéré a chargé l'ancien Premier ministre Isaac Zida en exil au Canada. Pour lui, Zida aura contribué à gâcher le climat au sein du RSP et des autres corps de l'armée. En un mot, ce coup d'État est la résultante d'une transition mal gérée au Burkina Faso. Le putsch a fait une quinzaine de morts et plusieurs centaines de blessés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Actualité hors d'Afrique maintenant. Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde l'Ukraine contre tout acte irréfléchi après la décision de Kiev d'instaurer la loi martiale dans plusieurs régions ukrainiennes en réponse à l'arraisonnement de trois navires ukrainiens par les gardes-côtes russes. Le leader russe a demandé à la chancelière allemande Angela Merkel de faire pression sur l'Ukraine, qui est un allié des Occidentaux. Il s'agit de la première confrontation ouverte entre Moscou et Kiev depuis l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie en 2014 et l'éclatement de conflits armés dans l'est de l'Ukraine entre forces ukrainiennes et séparatistes pro-russes qui a fait plus de 10 000 morts. Le Parlement ukrainien a voté lundi soir l'introduction de la loi martiale dans les régions frontalières de l'Ukraine après que la Russie avait capturé dimanche trois navires ukrainiens au large de la Crimée et fait prisonnier la vingtaine de marins à bord. Actualité aux États-Unis, 42 migrants ont été arrêtés du côté américain de la frontière avec le Mexique en tentant d'entrer de force aux États-Unis. De son côté, le Mexique a expulsé près de 100 migrants. Les détails avec Nanit Talani.
Les migrants arrêtés, en majorité des hommes adultes d'Amérique centrale, font partie d'un groupe d'environ 500 personnes qui ont tenté de franchir la frontière à Tijuana. Ce groupe, qui comptait aussi des femmes et des enfants, participait à une manifestation pacifique avant de se diriger vers la barrière métallique de délimitation pour tenter d'entrer en force aux États-Unis pour demander l'asile. Les forces de sécurité américaines les ont repoussés en usant de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Cependant, de nombreuses personnes ont réussi à traverser sans se faire arrêter, a reconnu Rodney Scott, un responsable américain de la police des frontières. La frontière entre Tijuana et San Diego a été brièvement fermée après cet incident, mais le président Donald Trump a menacé de fermer de façon permanente la frontière terrestre entre le Mexique et les États-Unis. De son côté, le gouvernement mexicain a annoncé hier avoir expulsé 98 migrants qui ont tenté dimanche d'entrer de force aux États-Unis.
Et pour terminer, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le ministre de la Défense Jim Mattis doivent s'adresser demain mercredi au Sénat des États-Unis à propos de l'Arabie Saoudite. L'intervention de Monsieur Pompeo et Mattis au Congrès est prévue. Alors que le sénateur et ancien candidat à l'investiture américaine en 2016, Bernie Sanders, s'apprête à présenter à nouveau une résolution visant à arrêter l'assistance militaire américaine à la coalition menée par l'Arabie Saoudite contre les rebelles houthis au Yémen. Merci de votre attention.